France Culture.
Esprit de Justice qui vous propose ce soir un voyage dans le temps, quoi, un voyage dans le temps qui n'est pas sans lien avec notre temps, comme on le verra, parce que on va s'intéresser en effet au pilori, le pilori et à ses avatars modernes. Certains ont peut-être encore en mémoire la fameuse perp walk que la police de New York avait fait subir à Dominique Strauss-Kahn au sortir du commissariat à propos de l'affaire du Sofitel. L'opinion française avait été choquée, d'ailleurs, par cette pratique qui est courante, qui consiste à exhiber publiquement le perpétrateur, c'est-à-dire le criminel, encore qui n'a pas été jugé, au moment où on le conduit au palais de justice. D'ailleurs, ça surprend dans une culture qui se dit si soucieuse de la présomption d'innocence. Mais enfin, peut-être que cette pratique réactiver un rituel punitif beaucoup plus ancien, celui du pilori médiéval. La mise au pilori est en effet une peine de haute justice qui naît au XIIe siècle dans le nord de la France, en même temps que d'autres peines infamantes. Et la culture médiévale, qui est une culture de l'honneur, stimule l'apparition de nombreuses pratiques de dégradation symbolique qui vont de la simple rumeur jusqu'à l'humiliation des cadavres. Les institutions judiciaires participent à ce paysage du déshonneur et le pilori en est le témoin le plus patent et le plus courant. Le pilori était une manière de aussi sécuriser les transactions, les retrouver souvent dans les marchés, et de réaffirmer la juridiction du seigneur en resserrant la cohésion sociale par un rituel très populaire qui associait tous les villageois, tous les bourgeois l'exercice de la peine. Le numérique et l'apparition d'une e-réputation ont remis à l'ordre du jour cette question de l'infamie. Et c'est probablement pas hasard que l'on parle aujourd'hui, si l'on parle aujourd'hui du pilori médiatique. Le village mondial, en effet, dont parle McLuhan, favorise aussi un commérage global. Commérage où l'on devient vite un paria, tant les réseaux sociaux libèrent la violence. Ce ne sont plus des ordures que l'on jette au visage des personnes clouées au pilori, mais des tombereaux de commentaires haineux, voire de fake news. Alors, Esprit de Justice va revenir ce soir sur le fonctionnement et la signification du pilori médiéval en proposant d'étendre la réflexion aux usages contemporains de la honte et de l'exclusion sociale en matière de justice. Et il va le faire en compagnie de deux historiennes, Isabelle D'Artagnan, qui a signé un livre remarqué et qui est précisément intitulé « Le pilori au Moyen-Âge dans l'espace français, 12e-15e siècle ». Et c'est aux presses universitaires de Rennes. Ça a été publié l'année dernière en 2024. Et pour en parler avec elle, Corinne Leveleux, qui est professeure d'histoire du droit à l'Université d'Orléans, directrice d'études à l'EPHE, directrice de la revue historique de droit français et étranger, et qui est l'auteur de nombreux articles, et notamment l'un qui m'a particulièrement intéressé, la construction de l'infamie dans le droit romano-canonique médiéval, 12e-13e siècle.
France Culture, Esprit de Justice, Antoine Garapon.
Merci à toutes les deux d'avoir répondu à mon invitation. Et ma première question sera pour vous, Isabelle D'Artagnan. Je pense que pour le pilori, ça dit quelque chose à tout le monde et personne ne serait capable de dire exactement en quoi ça consistait un pilori.
Merci beaucoup d'abord pour l'invitation. Effectivement, le mot est resté couramment dans notre langue sous la forme de l'expression « clouée au pilori » que vous venez d'ailleurs d'utiliser. En réalité, il s'agit d'une institution proprement médiévale qui naît lors de la grande mutation du 11e, 12e siècle, qu'on appelle parfois le tournant de l'an 1100. C'est un peu dans ce moment-là où naissent tout un tas d'institutions médiévales qui restent des symboles de cette période. La chevalerie apparaît pas très loin de ce moment également. C'est un moment d'émergence de tout un tas de villes industrieuses qu'on appelle par exemple les villes drapantes,
drapières, on fait du drap,
voilà.
Et on commerce.
Et l'émergence d'un grand commerce.
C'est ça.
à l'échelle régionale, interrégionale, autour d'une nouvelle institution, le marché urbain, fait que ces villes deviennent des lieux de centralisation de tout un tas d'échanges, tout un tas de pratiques politiques, etc. Et une nouvelle apparaît dans ce contexte-là.
C'est ça. Une nouvelle institution, le marché, c'est intéressant. C'est aussi un autre cliché du Moyen-Âge, c'est la foire médiévale. Comment se pratiquaient les échanges avant le Moyen-Âge? Ils passaient pas par le marché.
Alors, avant le Moyen-Âge, dans la première partie du Moyen-Âge, il y avait des échanges qui étaient relativement limités. On était plutôt sur une économie très locale. On appellerait ça aujourd'hui du circuit court.
Il n'y avait que du circuit court.
Ou du troc. Oui. Et c'est vrai qu'il y a une réouverture, en fait, des grands circuits commerciaux qui s'opèrent à peu près au moment où Isabelle d'Artagnan l'a signalé, c'est-à-dire à partir de la deuxième moitié du XIe siècle. Et là, on a une intensification des échanges. Et comme on a besoin d'échanges, on a aussi besoin de lieux d'échange.
Oui, oui. On a besoin aussi, c'est ce que disent les juristes du moins, on avait besoin de peines qui s'exécutent sur le lieu même de l'échange. Parce que le propre d'un échange, quand il y a des marchands qui viennent un peu de Flandre, qui viennent d'Angleterre, qui passent quelques jours en Champagne, ils vont repartir. Il faut rendre justice tout de suite, Isabelle d'Artagnan.
Oui, en fait, c'est un peu là où je voulais en venir. Au départ, le pilori, c'est une institution qui est là pour protéger le marché, mais même pour le définir. C'est-à-dire que c'est une espèce de grand poteau où sont frappées les armes du propriétaire du marché, du seigneur qui a fondé le marché. Et on a tout un tas de textes, surtout à la fin du XIIIe siècle, qui laissent entendre que il participe à la définition du marché en tant que le fait de voir le pilori indique qu'on est sous la juridiction de ce seigneur. Et donc cela a un lien direct, par exemple, à qui vous devez les taxes, à qui vous devez tous les droits pour pouvoir commercer dans le marché, etc. Donc, c'est pas seulement une peine ou un instrument de supplice, ça c'est le sens qu'on a retenu aujourd'hui, c'est une institution qui naît directement dans ce contexte-là. Et ça devient, et c'est dès le départ, le support également de tout un tas de pratiques judiciaires qui servent à protéger les transactions, à protéger les acheteurs, les vendeurs, à protéger la loyauté des transactions et notamment à éviter les risques de fraude. Parmi elles, il y a la pratique qu'on connaît, le fait d'attacher un fraudeur, par exemple, du moins un criminel, à ce grand poteau de justice qui trône à peu près au milieu du marché pendant quelques heures, et puis de le soumettre à tout un tas d'outrages pour le marginaliser, pour le priver de son honneur, etc.
On va certainement discuter. Vous jette des choses, notamment.
Oui. Alors, ça peut être... c'est très encadré. C'est-à-dire que ça peut paraître un peu folklorique quand on comprend pas de prime abord que ces sociétés sont étroitement ritualisées. C'est-à-dire que on a conservé des ordonnances qui interdisent les blessures physiques aux condamnés mis au pilori. C'est pas du tout la foire au sens l'anarchie, pas du tout. Personnes qui sont rassemblées dans le public ont le droit de jeter, sont même amenées à jeter des ordures molles. Ça peut être notamment des ordures de voirie qui sont ramenées par les charrettes de la ville. Et donc la justice met à disposition les ordures de la ville, les ordures ménagères.
Pour qu'on les jette sur la personne.
Pour les jeter. Oui. Elles sont amenées à prononcer tout un tas d'injures, menus blasphèmes, même si c'est interdit par plusieurs ordonnances. Et il est strictement interdit de leur jeter des pierres. Il ne s'agit vraiment pas de les blesser physiquement. Il s'agit de leur faire passer un mauvais moment, il s'agit de les humilier publiquement, il s'agit de créer une ambiance d'infamie et par l'ordure et l'injure, les transformer en ordure, pour ainsi dire, hein, aux yeux de tous et au su de tous, devant le peuple, comme disent les sources, pour que le peuple se souvienne de ce moment, de leur visage, etc. Bref, il s'agit de faire muter leur réputation en tant que personne et même leur statut socio-juridique, pour ainsi dire.
Alors, on va revenir sur cette mutation qui donne lieu à beaucoup de réflexions aujourd'hui, d'ailleurs, sur le procès moderne, mais un mot qui a été prononcé, Corinne Leveleux, le blasphème. Blasphème. C'est-à-dire qu'il faut pas blasphémer.
Non, ça c'est mieux de pas le faire, hein. D'autant que l'une des peines possibles des blasphémateurs, c'est précisément ce type de peine infamante, hein, c'est-à-dire on peut se retrouver au pilori si on a blasphémé. Donc il vaut mieux éviter quand même.
Mais le blasphème, c'est une insulte à Dieu.
Oui, c'est une insulte à Dieu, mais qui est assez courante en fait.
Et c'est une insulte à Dieu et qui les gens vont venger le divin par une peine d'humiliation.
Alors, c'est pas les gens.
C'est le blasphème,
c'est oui, c'est-à-dire que ça met vraiment en branle, si je puis dire, l'autorité. Donc là, on est plutôt dans une configuration qui est un petit peu différente de celle qui est présentée par Isabelle. La question du blasphème, c'est plutôt une question qui concerne les fondements de l'organisation sociale et politique, puisque Dieu est censé garantir le pouvoir et la légitimité de celui qui l'exerce. Donc le blasphémateur met en danger la communauté, c'est pas le faussaire, c'est pas celui qui a altéré les poids et mesures par exemple, comme c'est évoqué tout à l'heure pour les marchés, mais c'est vraiment celui qui par son attitude potentiellement peut mettre en danger la communauté en incriminant Dieu, enfin en insultant Dieu. Mais encore une fois, le blasphème c'est une peine politique en fait.
Ah oui. Alors donc, que là, vous insistez Isabelle D'Artagnan sur le fait que vous parlez de cette expression que j'ai trouvée intéressante, une justice signe. Une justice signe, c'est-à-dire une justice qui envoie des messages indépendamment, qui est des gens attachés au poteau ou pas. C'est le signal d'une juridiction territorialisée, le signal d'un marché, le signal d'un seigneur et le signal de ce qui est la condition même du marché, qui est le respect de la règle du jeu, quoi.
Oui, du point de vue de cette dimension-là, le pilori est intéressant parce qu'il envoie des signaux, il communique de plusieurs manières différentes. Mmh. C'est-à-dire que le pilori a du sens même s'il est vide. C'est un instrument permanent et comme je l'ai dit, il y a un lien avec la juridiction du seigneur. Il y a aussi étroitement un lien avec la hiérarchie des seigneuries entre elles et des hautes justices entre elles.
C'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire quoi une haute justice?
Ça de haute justice.
Oui.
La haute justice, c'est une juridiction particulière qui a, pour ainsi dire, les pleins pouvoirs. Il y a que les hauts justiciers qui peuvent condamner à mort, qui peuvent d'ailleurs mettre au pilori, et toutes les autres peines supérieures entre les peines infamantes et la peine de mort. Il y a des cas qui sont réservés aux justiciers, par exemple le vol, l'homicide, le larcin, l'incendie volontaire. Donc c'est la justice criminelle de plein exercice,
d'accord,
la haute justice.
D'accord, c'est ça.
En même temps, c'est aussi un honneur, et il y a une hiérarchie des hauts justiciers qu'on peut regarder notamment à la forme des édifices de justice et des signes de justice. Le pilori en fait partie, les gibets également. Les gibets ont plus ou moins de piliers selon le rang de la haute justice. Et de même, le pilori est réservé à une seule haute justice au sein de chaque ville à partir de la fin du XIIIe siècle. Donc ça signifie que même l'édifice lui-même, ce n'est pas un outil, c'est vraiment un édifice qui a du sens et qui communique tout un tas de réalités. C'est un signe social. Les gens de l'époque disent signe de haute justice. Et ensuite, dans la manière dont il est utilisé, c'est aussi un objet de communication politique. C'est-à-dire que les supplices publics en général ont, parmi leurs usages, ce n'est pas le seul, mais sont employés par les justiciers pour communiquer avec le peuple, communiquer avec leurs justiciables, pour, par exemple, si on suit un texte de qui a été fait au nom du duc de Bourgogne du XVe siècle, Philippe le Bon, il disait pour intimider et donner doute aux mauvaises gens. Donc est-ce que ça fonctionne, ça c'est une autre question, mais en tout cas il y a cette espèce d'intention de dire qu'on va intimider ceux qui font mal, et qu'au contraire, à rebours, ceux qui n'ont rien à se reprocher vont dire ah, ça fonctionne, preuve en est que ces supplices sont là pour punir les mauvaises gens. Et ça c'est de la communication politique, ça ne dit rien de l'effectivité de la chose.
C'est ça.
Si je puis juste ajouter un point par rapport à ce qu'a dit Isabelle, c'est que la particularité du pilori, c'est précisément non seulement d'être un signe, non seulement d'être un spectacle pénal, mais d'inviter aussi les spectateurs à devenir des acteurs. Puisque, encore une fois, les boues, les injures, elles sont envoyées collectivement par la communauté. Ce qui n'est pas le cas d'autres types de peines qui, effectivement, sont spectaculaires, qui sont mises en spectacle, mais qui ne sont pas forcément intervenir les personnes qui sont présentes. Là, il y a vraiment une mobilisation du corps social pour, en fait, agir, pour devenir les agents, en fait, de la justice.
Ce qui était extrêmement important pour la cohésion, Corinne Leveleux parlait de cohésion sociale, Isabelle D'Artagnan, ça participait de la cohésion sociale, le rituel de injurieux fait à personne coulée au pilori.
Oui, cette question-là est vraiment au centre de mon livre. C'est une particularité de cette peine, y compris au sein des autres peines infamantes.
Alors, c'est quoi les autres peines infamantes ?
Alors, il y en a beaucoup d'autres. La plus fréquente, c'est l'amende honorable. Donc, l'amende honorable, c'est une espèce de pénitence publique. Du moins, ça vient de ce moule-là, où le condamné est en vêtements de pénitent, en chemise, tête nue, et s'avance devant sa victime en criant merci, en demandant pardon, en s'agenouillant. Et la victime le relève en lui disant « je te pardonne » et la personne est réintégrée. Donc elle s'humilie, mais en même temps, il y a une dynamique de réintégration dans la société. Alors que le pilori... Donc ça se passe, même si c'est en public, ça se passe entre le demandeur et le défendeur, entre les deux personnes. Alors que le pilori, ça se passe entre le condamné et la communauté, c'est-à-dire le public qui effectivement est totalement intégré dans la peine, avec, comme je l'ai dit, des règles assez fixes et imposées. C'est une dynamique tout à fait originale, qu'on ne trouve pas dans les autres peines, et qui a des effets sociaux qui sont constatés.
Précisément parce qu'il mobilise tout le monde. Parce qu'il mobilise tout le monde. Tout le monde participe de ce rituel. C'est un véritable rituel de la peine.
Alors Jacques Chiffolo a même trouvé un document qui criminalisait le fait de ne pas participer. C'est-à-dire que... Oui, alors est-ce que ça marchait ça, aucune idée. Mais en tout cas, il y a une amende qui est prévue pour les gens qui refuseraient de venir spécifiquement pendant le supplice du pilori. Donc, il s'agit bien de refonder les limites de la communauté en créant un effet de marginalité sur un individu. Il s'agit de présenter un personnage et de dire voilà le criminel, voilà ce qu'il a fait. D'ailleurs, il y a des outils de communication sur le criminel qui sont utilisés pour expliquer visuellement son crime. Ça peut être une mitre, donc un chapeau en papier qu'on lui met avec un dessin ou parfois un mot
qui signifie
son crime.
Oui, c'est ça.
On peut écrire. Il y a un cas très étudié au Parlement de Paris où est écrit en gros sur la mitre. Enfin, sur une couronne de parchemin, faussaire, en français. Le texte spécifique, c'est que ça doit être en français. Bon, j'ai rassemblé tout un tas de cas. Par exemple, un voleur de poules, on lui avait mis en sautoir une cage avec des poussins pour signifier son crime. Un voleur de raisins, on lui met des sarments autour de la tête, etc. etc. Donc, on fabrique le corps du condamné, on le met en scène pour qu'il devienne son crime. Et en même temps, on incite, on proclame par des sergents, on proclame la sentence, pourquoi il est là, combien de temps il va y rester, tout est très précis, tout est minuté. Et une fois que cette mise en scène est faite, donc ça c'est les justiciers qui décident de cette mise en scène, mais une fois qu'elle est faite, et c'est très notable, il passe au second rang. Et ça, c'est nouveau. En tout cas, c'est assez unique. C'est-à-dire qu'ils sont vraisemblablement toujours là, le temps de la peine, mais ils ne font plus rien, sinon qu'attendre que le public se mobilise pour montrer la cohésion de cette société des bonnes gens, des gens de bien, des gens honorables, des gens qui n'ont rien à se reprocher, du moins qui pensent qu'ils n'ont rien à se reprocher, du moins qui se mettent en scène en tant qu'ils n'ont rien à se reprocher, contre la personne à qui on reproche le crime.
Mais ça, c'est très moderne, cette idée de la peine où, en fait, l'accusation, c'est désigner celui qui a fauté, mais c'est en même temps, implicitement, affirmer son innocence, l'innocence de l'éducateur, de l'accusateur.
C'est exactement comme ça que ça fonctionne. C'est exactement comme ça. C'est-à-dire que c'est le thème bien connu hein, du bouc émissaire. Hein. Ça rejoue, en fait, cette thématique-là. Ça rejoue également probablement des rituels plus anciens. Et alors là, pour le coup, pas du tout inoffensif. On peut penser à la lapidation en particulier, hein, qui était vraiment des rituels où là, il y a une participation de la communauté pour lapider celui qui a été désigné comme le criminel. Bon, là, dans le cas du pilori, c'est pas une lapidation au sens matériel du terme, puisqu'il n'y a pas de mise à mort, surtout pas, il n'y a pas de blessure. Hein, on insiste bien là-dessus, les ordonnances sont très claires. Mais c'est une mise à mort symbolique, hein, c'est-à-dire que une fois que vous avez passé votre, votre journée au
destin,
pilori...
c'est ça. Voilà. Ça durait combien de temps, le pilori
Alors, les cas les plus nombreux durent une heure.
Ah oui, donc c'est pas...
Quand c'est spécifié par les sources.
C'est ça.
Parfois c'est plus, hein. Les blasphémateurs,
oui,
c'est plus.
Oui, j'ai trouvé un cas qui dit 8 heures. Alors, pauvre bonhomme, ça pose la question de pendant combien de temps est-ce qu'il se prend des ordures? Certainement pas 8 heures.
C'est ça.
C'est des temps forts, certainement.
À l'évidence, c'est un rituel d'exposition, vous insistez là-dessus. Vous n'aimez pas beaucoup, on a parlé de bouc émissaire, Isabelle D'Artagnan, vous n'aimez pas beaucoup la théorie de René Girard, le tous contre un. Pourtant, vous dites, hein, elle met en scène la réponse du tous contre un seul.
J'ai du mal avec toute théorie achronique, totalisante ou qui peut s'appliquer de manière uniforme à tout un tas de cultures. Moi, je suis un peu comme Saint Thomas dans ma manière de faire de l'histoire. J'aime bien quand c'est dans les sources. J'aime bien quand c'est très local. J'aime bien quand on peut démontrer des filiations ou on peut démontrer des émergences. Alors, de manière très modeste, parce que il reste pas grand-chose de cette période, malheureusement. J'ai une espèce de souci qui m'a peut-être été enseigné de manière un peu excessive de la précision dans le contexte immédiat, donc ici de la France médiévale.
France Culture, Esprit de Justice, Antoine Garapon.
Esprit de Justice qui continue de réfléchir sur le pilori, son origine, ses fonctions, son destin, ses avatars dans les sociétés modernes, en compagnie de deux historiennes, Corinne Leveleux, professeure d'histoire du droit à Orléans, et Isabelle D'Artagnan, qui vient de publier un livre à ce sujet et qui a choisi de nous faire entendre cette chanson « Crucified » par Army of Lovers, avec l'accent Isabelle D'Artagnan. Pourquoi ce choix, Crucified?
Alors, deux raisons. D'abord, parce que j'aime bien avoir une approche ludique vis-à-vis de mes objets d'étude. Et je trouve que ça représente un peu ça. Et puis aussi parce que, comme on a avec nous Madame Corinne Leveleux, qui est spécialiste de droit canon, ben je me suis dit que ça pouvait peut-être ouvrir des discussions sur des versants de justice ecclésiastique, peut-être.
Alors,
ou pas.
Eh ben, on va tout de suite demander la question à Corinne Leveleux, parce que vous faites dans un article qui est extrêmement intéressant, parce que vous avez travaillé sur le blasphème et l'infamie, donc, hein, société de l'honneur, et vous faites un lien qu'il faudrait, que vous pourriez peut-être développer sur pour nos auditeurs, c'est finalement le pilori, l'infamie, c'est un état du droit pénal, c'est un état de la justice pénale, mais qui est indispensable pour comprendre l'autre étape, celle qui va suivre, Corinne Leveleux.
Tout à fait. Donc là, c'est alors je vais essayer de pas être vraiment technique parce que ça, c'est, oui. Y a pas lieu. Mais en gros, l'idée, c'est que au moment où précisément cette peine du pilori émerge, hein, donc elle est à la période que Isabelle a indiqué tout à l'heure, on voit une mutation du droit pénal autour de la procédure en particulier, autour de la question de la réputation. C'est-à-dire que on va passer d'une justice où les intérêts des particuliers sont lésés et où un particulier va se plaindre directement parce qu'on lui a volé quelque chose, parce qu'il a été victime de coups et blessures, que sais-je, à une justice qui a une dimension beaucoup plus publique et qui va s'appuyer sur la réputation des uns ou des autres pour amorcer des enquêtes. Et donc la question de l'infamie devient une question centrale dans le développement du droit pénal, c'est-à-dire que la justice va s'occuper des infâmes. Donc, c'est pas une infamie qui est fabriquée par le droit, c'est une infamie qui est en quelque sorte antécédente à la procédure, qui est antérieure à la procédure, et que la procédure a pour objet soit de vérifier, soit d'infirmer. Donc, c'est une façon, en fait, d'ouvrir la porte au juge pour se saisir de la matière sociale et pour mener son enquête. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est nouveau. Et d'une certaine façon, la peine de pilori, c'est une peine qui répond parfaitement à cette nouvelle compréhension de l'infamie et, ou de la réputation dans le droit.
Ou la justice, c'est ça qui est très nouveau, d'après ce que j'ai compris, ce que j'ai lu, et notamment aussi que j'ai lu chez Foucault, c'est-à-dire qu'apparaît l'idée de vérité, de vérification, de véridiction. Il faut que le juge vérifie la réalité de cette infamie.
Il faut que le juge vérifie la réalité. Donc il faut qu'il fasse une enquête pour s'assurer précisément que ce qui remonte à ses oreilles, le bruit qui remonte à ses oreilles, la rumeur qui monte de la foule, que ce bruit est fondé, que cette rumeur est fondée. Et donc l'objet de l'enquête, c'est ça, c'est de vérifier ce qui se passe. Alors évidemment, avec toute latitude pour opérer cette enquête.
Et avec une procédure rationnelle. Il y avait quelque chose de rationnel, comme dans le pilori, Isabelle D'Artagnan, où c'était plus une désignation d'un fauteur, d'un voleur, d'un escroc.
Tout ça est excessivement rationnel de bout en bout.
De bout en bout.
Tout est, c'est une société juridique, de droit. Depuis l'information judiciaire, comme vient d'en parler Corinne Leveleux, depuis le fait de devoir faire des enquêtes pour vérifier l'entièreté, y compris des preuves matérielles, des témoignages, pour transformer la rumeur en réputation validée par les juges, jusqu'à ensuite la résolution du conflit. Et moi, ce qui me semble assez intéressant aussi, c'est que à cette période-là, on n'a pas encore de monopole de la justice publique sur la résolution des conflits. C'est-à-dire que cette procédure se fait de manière concurrente avec tout un tas de possibilités de résoudre les conflits, soit parajudiciaires, soit extrajudiciaires, des arbitrages faits par des juges, la négociation entre les parties, la guerre qui en fait partie.
La FED, oui.
La FED, la guerre de vengeance cyclique. Et tout cela s'articule de manière dynamique. Quelque part, il a été proposé récemment l'idée par Claude Govard que dans ce grand ensemble, dans cette grande machine où sont articulées tout un tas de pratiques à la fois sociales, de négociation, de justice, le juge pouvait avoir comme fonction de venir entériner, in fine, un état en cours du conflit. Et notamment pour la réputation, c'est-à-dire que, quelque part, est-ce que le pilori ne vient pas sanctionner le fait que le défendeur n'avait pas les ressources d'y échapper. C'est un peu ce que j'essaye de montrer avec la sociographie des condamnés. C'est-à-dire que, au final, ceux qui finissent au pilori, ce sont ceux qui ne pouvaient pas négocier, qui ne pouvaient pas basculer sur d'autres résolutions des conflits, qui étaient peut-être trop pauvres, trop fragiles socialement, pas assez d'alliés, pas assez de ressources, pour pouvoir y échapper, et du coup qui se retrouvent engrainés là-dedans. À l'inverse... c'est aussi la machine judiciaire qui peut gracier. C'est un peu l'inverse, qui peut restaurer dans son honneur. Oui, hein, la formule des lettres de rémission qui dit on restaure dans le bon honneur. Et c'est un peu l'autre pendant. Donc la justice, à la fin, soit rend infâme, soit restaure dans l'honneur, mais au terme d'un mécanisme qui la dépasse complètement.
Alors restaure dans l'honneur, Corinne Leveleux, ça fait rêver. On va parler bientôt de l'internet, la e-réputation et des réseaux sociaux où il n'y a pas cette procédure de relèvement. Est-ce que ça marchait, ce relèvement dans l'honneur ?
Moi, ça m'a toujours laissé un peu sceptique. Hein. Effectivement, c'est des formules qu'on trouve. Hein. On restaure dans l'honneur. Le pape a cette possibilité aussi de restaurer la fama, hein, puisqu'on évoquait tout à l'heure le droit canonique. Donc le roi, hein, c'est vraiment un attribut de la souveraineté. La souveraineté, c'est la possibilité de gracier ou de restaurer l'honneur. Après, concrètement, c'est quand même compliqué. Une fois qu'on a fait l'objet d'un rituel d'humiliation, une fois que le nom a été jeté en pâture de cette société, qui est quand même une société du face-à-face, hein, société à honneur, a dit Claude Gauvard, c'est difficile, hein, à moins de quitter les lieux où on habite. Hein, ça paraît quand même compliqué de voir son honneur complètement restauré.
Je vois pas les étrangers là-dedans, c'est-à-dire que dans mon imagination, un marché, c'est un endroit où se rencontrent des étrangers qui viennent offrir des biens et d'autres qui viennent les acheter. C'est un lieu d'échange et notamment aux ménages, ils viennent d'autres régions. Qu'est-ce qu'on faisait avec un étranger ? Est-ce que le pilori était sur le lieu même de l'infraction ou est-ce que on allait voir renvoyer l'infracteur dans son village ou sa ville d'origine ?
Alors, c'est une peine qui a besoin d'une interconnaissance. Du coup, elle fait pas vraiment sens pour les étrangers. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'il y a un fossé entre l'imaginaire des justiciers. Dans les ordonnances, vous allez trouver qu'on menace de pilori des étrangers. Mais ensuite, quand j'ai compilé des centaines et des centaines de cas, il n'y en a pas. Ouais. Et dans le mécanisme, on comprend pourquoi il n'y en a pas. Parce que si vous mettez au pilori un étranger... Ça n'a pas d'effet sur sa réputation puisque personne ne le connaît. Ça n'a d'effet sur la réputation que si c'est parce que c'est votre voisin et que vous le connaissez. Et la preuve de ça, c'est que le Parlement de Paris, qui siège à Paris, met au pilori, certes à Paris, mais dans la moitié des cas, demande que la personne soit pilorisée aussi dans sa ville d'origine, pour que tous ses voisins, pour que tous ses voisins, tous les gens qui le connaissent, le voient. Parce qu'il s'agit bien de détruire la réputation de quelqu'un.
Mais alors, dans cet esprit-là, pour flétrir la réputation de quelqu'un, ça veut dire qu'il a une bonne réputation. Et on est frappé de voir que, d'après ce que j'ai lu chez vous toutes les deux, c'est que les gens de peu, les gens sans feu ni lieu, les prostituées, les personnes déjà socialement infâmes, n'étaient pas l'objet du pilori.
Oui, et à nouveau, ça dit quelque chose du fait qu'il s'agit bien d'un rituel au sens fort du terme, au sens anthropologique, au sens de Lévi-Strauss. C'est-à-dire que c'est un supplice qui vise à fabriquer une nouvelle réalité, qui vise à ce que le statut de la personne soit modifié entre le moment où il rentre et le moment où il sort du pilori. Donc, si la personne est déjà infâme, et déjà reconnu comme infâme, pourquoi le condamner à une peine qui a pour but de le rendre infâme ? Ce serait une perte de temps et d'argent. Ça coûte cher de faire fonctionner un pilori. Hein. Faut payer les sergents, faut mettre en branle les institutions judiciaires pendant une demi-journée. Enfin, c'est pas trivial, en fait.
Le truc, etc. c'est vraiment un rituel de dégradation. Donc, effectivement, si on est déjà dégradé...
C'est très intéressant parce qu'il y a un article qui est célébrissime dans la sociologie du droit et de la justice, c'est l'article d'Harold Garfinkel, où il dit quelles sont les conditions de réussite d'une cérémonie de dégradation. Et c'est comme ça qu'il définit le procès pénal. Vous connaissez probablement cet article-là. Alors, il a fait des générations d'étudiants l'ont étudié parce qu'il montre que une des fonctions de la justice pénale serait précisément de faire changer de statut et de montrer, alors dans la perspective perspective très contemporaine avec Lombroso et puis une certaine criminologie, c'est-à-dire mais cet homme qui a commis un crime, il a toujours été criminel. Et la dégradation révèle sa véritable nature, Corinne Neveleux.
Oui, tout à fait. Mais on est dans cette anthropologie-là, pessimiste, hein, marquée aussi par la chute. On n'est pas tellement dans une recherche de l'amendement, là. On est plutôt vraiment dans le fait de privilégier, en fait, l'ordre social, la conformité sociale, et de se débarrasser des gêneurs ou de les marquer de façon irréversible. Alors, il y a des peines qui sont d'ailleurs plus terribles, hein, mais qui vont dans le sens de ce que vous indiquez. Je pense à des peines de mutilation visibles, qu'on appelle des peines réfléchissantes. Par exemple, le voleur qui perd sa main ou qui est essorillé.
Donc, il s'est pratiqué. Qu'est-ce qui a été pratiqué, là, de couper la main du voleur?
Absolument, oui, ça a été pratiqué. Oui. Alors, pas forcément énormément, mais enfin, ça a été pratiqué. On a des.
Oui, c'est ça.
Enfin, il a fait son ouvrage là-dessus, hein, sur cette question-là. Bon, moi, j'avais des blasphémateurs. Soi-disant, on leur perce la langue, on leur coupe la langue. Bon, j'en ai pas vu beaucoup, mais en tout cas, c'est prévu par les ordonnances royales. Et c'est aussi une façon de les désigner, hein, de manière immédiate.
C'est-à-dire qu'on voit arriver. Éternel, une fois qu'on a pu, c'est ça.
C'est terminé. C'est irréversible. Bon, là, le pilori, c'est quand même une peine symbolique, hein, mais pour autant, avec un effet social dévastateur, hein, dans cette société.
Les gens s'en souviennent. Hein. J'ai trouvé une enquête du Parlement de Paris à Reims, début 15e siècle, où il s'agissait de définir les limites de juridiction entre deux juridictions. Mais donc, pour faire ça, les enquêteurs demandent est-ce que vous vous souvenez de supplice de haute justice, puisque c'est ça qui dit la juridiction d'un seigneur. Donc, qui met au pilori ici, qui pend des gens, etc. Et des gens citent des mises au pilori qui sont vieilles de 30 ans, avec des détails extrêmement important, le nom de la personne, son métier, où est-ce qu'il habitait, est-ce qu'il boitait, etc. Donc ça veut dire qu'il y a une mémoire communautaire des condamnés qui peut courir pendant des décennies. Donc effectivement, une fois qu'on est passé à ce type de supplice, il me semble qu'il y a une marque sociale qui peut perdurer et qui peut même, comme l'a montré Thierry Dutour, contaminer autour de soi. C'est-à-dire que les membres de la famille... On peut reprocher l'infamie d'un des membres sa parentèle.
Quoi. C'est ça, mais ça c'est la culture de l'honneur. Une société de l'honneur, oui. elle est nécessairement collective. Qu'est-ce qu'on devient quand on est passé au pilori, quelqu'un de pilorisé comme on dit? Il reste dans la ville, il s'en va, il s'enfuit, il s'en va avec sa famille. Qu'est-ce qu'on sait ça, Corinne Leveleux?
C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Enfin, moi, pour le coup, là, c'est plutôt Isabelle qui pourrait répondre, mais ils sont.
J'ai éternellement essayé de répondre à cette question, je n'ai pas réussi.
Ah bon.
C'est-à-dire que la nature des sources fait qu'on ne peut pas suivre les gens. Puisqu'on les a au moment de leur procès, on les a parce qu'un chroniqueur veut bien en parler, on les a parce qu'une enquête les cite, mais les gens du commun, ils apparaissent comme ça dans une source, et après, la plupart du temps, ils disparaissent. Parfois, on peut les suivre au cours d'un même procès, c'est un méthode processuel, mais une fois que le traitement judiciaire est terminé, c'est très difficile de les tracer.
Et les blasphémateurs, qu'est-ce qu'ils deviennent, les blasphémateurs? Ils sont excommuniés, ils peuvent plus rentrer dans les églises.
Oui, mais ça c'est la théorie, mais en réalité, ils restent dans la communauté parce qu'ils sont pas vraiment, jusqu'au XVIe siècle, ils sont pas vraiment considérés comme vraiment des exclus, hein, parce que le blasphème c'est plutôt un signe de connivence, hein. Donc c'est plutôt une affaire de cabaret ou deuxième partie de soirée. Donc ça passe pas, les autorités, encore une fois, c'est un crime qui est construit politiquement pour manifester le pouvoir. Au niveau des groupes sociaux, ça ne percute pas vraiment jusqu'au XVIe siècle, jusqu'à la grande rupture confessionnelle.
Il n'épouse pas la cause de l'Église, les autres
copains
de cabaret.
Non, personne n'y croit. Les clercs sont désolés, ils disent « c'est lamentable, tout le monde blasphème, tout le monde s'en fiche ». Voilà, ça c'est vraiment un peu le contre-exemple. Hein. Alors que là, nos pilorisés, c'est sûr que pour des gens qui sont enfin vraiment sans ressources, hein, parce que c'est vraiment ça la grande affaire, et c'est vrai d'une manière générale de la plupart des condamnés, alors sauf quelques cas particuliers, très spectaculaires, qui sont vraiment des grands nobles, qui ont trahi ou qui ont commis les pires horreurs comme Gilles de Rais, mais en dehors de ça, les condamnés de la justice médiévale sont quand même plutôt des pauvres types.
C'est ça. Mais alors, les nobles, eux, on les voit pas au pilori, les aristocrates.
Non, c'est une peine ignoble, au sens propre du terme. C'est une peine qui est pour les non-nobles. J'ai identifié moins de 10 nobles pendant 300 ans qui ont été mis au pilori dans des circonstances extrêmement particulières.
C'est-à-dire ?
Ça va être des routiers. Je crois qu'il y en a un, c'est un routier...
Les routiers sont pas sympas.
Oui, c'est ça. Oui, oui, Arnaud, c'est pas Arnaud, le même sens qu'aujourd'hui.
Oui, les pardon. C'est des hommes de guerre qui oui. sont dans le pillage, en gros.
Qui est un véritable plaid de la guerre de 100 ans.
C'est en antichambre d'une peine de mort, c'est-à-dire qu'on va les mettre au pilori, mais ils partent directement après à la peine de mort. Donc c'est juste pour renforcer la peine. Donc c'est extrêmement rare. C'est vraiment une peine pour roturiers ordinaires, gens de bien ordinaires de la communauté, plutôt insérés socialement, mais pas trop.
Alors vous disiez, Isabelle D'Artagnan, que c'était une procédure qui était rationnelle de part en part. Donc il n'y avait rien de pulsionnel là-dedans. Mais il y a une procédure, vous parlez à contrario de la procédure de Haro. Vous pouvez nous dire un mot de la procédure de Haro qui était...
C'est pareil, c'est une procédure... Qui est prévu par les textes.
Mais est-ce que c'est, ça veut dire que Haro, ça veut dire qu'on désigne ces flagrants délits d'aujourd'hui.
Oui, c'est en cas de flagrant délit, il y a une compétence universelle, pour ainsi dire, de poursuite et pour les mener à la justice.
C'est ça. Et il n'y a pas de violence, c'est pas du lynchage.
C'est pas un lynchage, il faut remettre à la justice, en théorie, il faut remettre à la justice la personne au terme du Haro.
On crie Haro. Haro,
on crie Haro. Oui, il y a un crime, les gens crient le crime et ils ont le droit d'attraper le criminel et ensuite
pas
normalement ah non, ça doit être enfin bon, après
il peut être un peu abîmé mais c'est pas...
il y a toujours une marge entre le droit. Là, ce que je dis, c'est en droit. Donc, il y a toujours une marge entre le droit et ce qui se passe. Moi, j'ai pas étudié spécifiquement le Haro. Il y a
des droits coutumiers, donc c'est pas forcément.
C'est ça. Oui. Mais, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de scène de lynchage, qu'on dit, le lynchage moderne, c'est-à-dire quelqu'un qui est pendu au écourt sur place.
Ça a dû exister, mais enfin, c'est pas.
Non, c'est pas répertorié.
C'est pas codifié par le droit, en tout cas.
Voilà, c'est pas censé être la forme ordinaire.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets. Ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire, le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jatte. Ça va de soi.
France Culture, Esprit de Justice, Antoine Garapon.
Esprit de Justice qui continue de réfléchir sur le pilori et sur les peines infamantes et sur peut-être leur modernité, c'est ce qu'on va voir en tout cas en compagnie d'Isabelle D'Artagnan qui vient de sortir un livre sur le pilori au Moyen-Âge et de Corinne Leveleux, professeure d'histoire du droit à Orléans, qui a choisi de nous faire entendre cette chanson par Brassens, La mauvaise réputation. Quasi, c'est pas la peine de vous demander pourquoi vous avez choisi ça.
Je pense que c'est clair. Oui. C'est vraiment cette idée de communauté qui se défend contre les gens qui ont mauvaise réputation.
Mais alors, qu'est-ce que va devenir cette peine infamante dans une société comme la nôtre, où l'urbanisation, l'exode rural, quoi, des tas de phénomènes sociaux, fait que l'interconnaissance faiblit par rapport à la société médiévale, Isabelle D'Artagnan?
Bon, déjà, le pilori, c'est la peine infamante qui survit le plus longtemps. Dans le système juridique français, elle existe jusqu'au début du 19e siècle.
Aussi tard?
Oui, l'exposition publique. Elle est interdite dans les années 1820 ou 1830, si je me souviens bien.
Elle est encore pratiquée?
Bah, plus trop, en fait.
Oui.
C'est-à-dire que même si elle semble durer extrêmement longtemps, en réalité, le moment de mise au pilori disparaît beaucoup plus vite, beaucoup plus tôt. Dès le XVIIe siècle, ça devient rare, il me semble, de voir ce moment où tous les gens s'assemblent pour envoyer des ordures. J'étais tombé sur des textes du XVIIIe siècle qui racontaient qu'il y avait un effet d'étrangeté même vis-à-vis de l'objet pilori de l'édifice.
Est-ce qu'il en reste des piloris ?
Il en reste au moins un en Belgique. C'est devenu tellement incongru au XVIIIe siècle, et dès le XVIIIe siècle, que, par exemple, le grand pilori des Halles de Paris a été rasé par Louis XVI avant la Révolution française. Mmh. Simplement parce qu'il était vétuste, il n'y avait plus l'usage.
C'était un édifice en pierre, en bois ?
Oui, c'était un grand édifice, c'était une tour octogonale avec un toit en poivrière. Et des carcans qu'on pouvait voir et qui tournaient. Donc une espèce de très grand édifice, très marquant. Et ensuite, la Révolution française les rase tous en France,
oui,
parce que c'était des symboles seigneuriaux. Donc il en reste encore quelques-uns autour de la France, notamment en Belgique, mais pas en France.
Alors, vous dites, Corinne Leveleux, qu'aujourd'hui, finalement, dans notre société, et encore plus avec le numérique, on voit un retour d'une logique qui n'est pas sans évoquer celle du pilori, Corinne Leveleux.
Ah, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, on pensait qu'on était sorti de cette logique de l'infamie, précisément avec le phénomène urbain et avec la dislocation des liens traditionnels, et puis aussi avec la prison, enfin, qui devient la peine de référence, c'est-à-dire qu'en fait on soustrait le condamné à la vue en le mettant en prison, en le mettant à l'ombre, hein, au sens premier du terme, et donc finalement ces rituels d'exposition paraissaient complètement dépassés et
c'est tout le contraire, en fait on cache les prisonniers,
absolument, on les cache, on les voit pas, et même la peine de mort avait lieu de façon furtive le matin très tôt dans la cour de la prison, enfin voilà, c'était vraiment l'idée de soustraire à la sanction, à la vue du peuple, alors que la justice est rendue en son nom. Et là, en fait, on revient avec les réseaux sociaux, avec Internet, on revient à des formes d'infamie, d'une certaine manière, qui sont réverbérées justement le phénomène numérique, avec des effets retard qui sont redoutables, parce que ce que vous laissez sur Internet reste sur Internet. Alors, il y a un droit à l'oubli, mais
C'est très difficile à faire respecter.
Ce qui fait que ça amplifie la durée des peines. Et puis, le phénomène que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire les phénomènes des réseaux sociaux et de disqualification, de shaming, de dénonciation, de commentaires haineux, etc. Enfin, toutes choses que nous connaissons, malheureusement.
Isabelle D'Artagnan, ce rapprochement du pilori et de la manière dont aujourd'hui on peut perdre sa réputation rapidement pour des faits qui ne sont pas nécessairement délictueux d'ailleurs.
Moi, ça m'intéresse beaucoup la réémergence d'une espèce de culture de l'honneur au XXIe siècle. Je crois qu'il faut prendre au sérieux l'idée de Jacques Le Goff qu'il y aurait des espèces de lambeaux culturels qui traversent les siècles et qui sont sous-jacents un temps et qui peuvent réémerger. Il y a une culture du temps long. Je crois que quand on a été pendant des centaines d'années une société à honneur, ça peut réémerger de manière contingente. Et il me semble, en tout cas c'est quelque chose qui commence à m'intéresser, il me semble que la manière dont sont disposés certains outils numériques et réseaux sociaux crée ces réémergences. Donc par exemple, le QRT, le quote retweet, donc le fait de pouvoir reprendre le message de quelqu'un avec son propre message par-dessus, ce qui permet de bien pointer si la personne a été idiote, si possible en mettant juste « ratio », et ensuite en attendant que les gens mettent des likes pour défoncer la personne. Ou alors la pratique du mur de commentaires. Donc c'est des outils techniques, en fait, qui, par leur disposition, donc le fait que quand une personne met un message, on peut directement répondre en dessous et avoir des centaines et des centaines et des centaines de messages. Du point de vue de la personne qui le fait, on n'a pas l'impression de harceler ou ou de rendre infâme, ou puisqu'on fait un message, mais il y a un effet de masse, exactement comme dans des pratiques communautaires de déshonneur. Le fait de retweeter 500 fois, mais zéro like, donc c'est des questions de ratio, etc. Donc toutes ces pratiques-là, ça vient de la manière dont sont disposés les objets numériques. Je peux penser aussi au fait de mettre plein d'émoticônes en dessous d'un message Discord, pour humilier la personne. Donc il y a plein de petites pratiques comme ça, qui dans la manière dont elles sont disposées, recréent des manières de afficher une personne, d'afficher une position. Effectivement, il n'y a pas seulement le fait que ça reste et ensuite ce sera vu pendant des années, il y a aussi un effet de communauté, microcosme, qui est que c'est une place publique en fait, c'est une place publique numérique. Et donc, les gens peuvent avoir ce type de mécanisme.
Et donc, Corinne Leveleux, on va retrouver cet effet cohésif. Oui. C'est-à-dire qu'on retrouve les deux mécanismes, ceux qu'on avait identifiés au début de l'émission. C'est-à-dire qu'il y a à la fois celui qui est exclu, alors je ne prononce pas le tous contraint pour ne pas... mais il y a un peu de ça quand même. Et surtout, un effet de cohésion de la communauté, Corinne Leveleux.
Oui,
et
puis d'exaspération, enfin d'auto-alimentation. Et effectivement, il y a ce double effet qui est absolument redoutable, c'est qu'effectivement, comme le dit Isabelle, on est dans un espace. On est dans un espace qui paraît commun, puisqu'en fait, l'espace numérique permet de rapprocher artificiellement les gens. Donc ça, c'est un premier effet qu'on va retrouver comme dans une place publique médiévale. Mais l'autre aspect des choses, c'est qu'on ne voit pas la personne en réalité. On a affaire à une interface numérique. Ce qui rend l'attaque plus facile. On est derrière son écran, on s'énerve tout seul derrière son écran, parfois de manière anonyme en plus. Enfin, c'est vraiment le comble de ce type d'acte. Mais la personne en face, elle reçoit, la personne réelle se prend effectivement ses commentaires et ses remarques directement, alors qu'on ne la voit pas. Alors que dans le pilori, il y avait quand même au moins des règles. Et puis surtout, c'était une condamnation.
Oui.
La suite d'une condamnation.
Et une ritualisation.
Absolument.
Et une ritualisation.
Et une durée.
Et une durée, voilà, qui était Isabelle D'Artagnan.
Oui, je rajouterais un petit point là-dessus, je suis entièrement d'accord, évidemment. Il y a aussi un effet d'analogie qui me paraît intéressant. C'est ce dont vous avez parlé tout à l'heure, le fait que la personne devient son crime, la personne est érigée comme une espèce d'essence de voleur, etc. On retrouve la même chose, c'est-à-dire que on va afficher la personne en disant « c'est quoi ce sale violeur ?» Et ça y est, la personne a cette réputation-là. Et ensuite, ça tourne. Et donc, et là, pour le coup, effectivement, c'est juste des pratiques sociales, c'est pas des pratiques judiciaires. C'est des pratiques spontanées qui créent aussi cette forme d'essentialisation.
C'est ça, c'est des pratiques spontanées, c'est des pratiques sociales, mais du fait qu'elles ne soient pas rationnelles, vous avez beaucoup insisté l'une et l'autre d'ailleurs sur cette dimension rationnelle, ritualisée, le rite venant renforcer cette rationalisation, c'est-à-dire faut que ça dure une heure, moins d'une heure, plus longtemps, mais après, il y a une fin parce que c'est encadré par un rituel. Mais là, aujourd'hui, il y a à la fois cette pratique numérique et disparition des rituels, Corinne Leveleux.
Alors on est dans la dérégulation totale, hein. C'est l'utopie initiale d'Internet, c'est-à-dire qu'on est sur un régime de totale liberté, où tout est possible, où tout est permis. Alors bon, l'Europe essaye de réguler comme elle le peut ces pratiques, même si on voit bien qu'il y a des résistances très fortes du côté des géants du numérique. Et les polémiques récentes avec nos amis américains sont le reflet de ça, hein, puisqu'en fait, l'Europe est accusée de limiter la liberté d'expression, alors que les règlements européens, en particulier le RGPD, cherchent à minorer ces pratiques, l'impact de ces pratiques sur les personnes. Parce qu'en fait, ces personnes sont directement affectées profondément, hein, dans leur honneur, dans leur vie privée.
Isabelle D'Artagnan, est-ce que c'est précisément pas la limite de la comparaison, ou plutôt la manière de valoriser l'expérience médiévale avec toute sa cruauté sociale? C'est que finalement, par cette rationalisation, par cette procédure, par cette ritualisation, on maîtrisait un phénomène. Or là, ce qui est tout à fait frappant, c'est que ce phénomène nous apparaît comme plutôt sauvage et très difficile à effacer. On n'efface pas Internet.
Oui, sauvage, du moins...
Sauvage dans le sens du sacré sauvage de Roger Bastide, oui. C'est-à-dire de pratiques qui naît spontanément.
Et c'est vrai qu'il y a... Là, on est face à une situation qui est que on a la réémergence de pratiques de société à honneur dans une société qui ne l'est plus et qui n'a plus aucune institution pensée réellement pour gérer, canaliser ces pratiques-là. C'est-à-dire qu'au final, la seule institution qu'on a, c'est quoi ? C'est le fait de porter plainte pour diffamation. Bon, ok, c'est quand même extrêmement limité comme institutionnalisation de ces pratiques. Par contre, si ça n'existe plus en France, il existe dans d'autres pays toujours des institutions de peines infamantes.
Notamment dans le monde anglo-saxon. Notamment dans le monde anglo-saxon, il y a cette pratique, alors vous connaissez peut-être, je ne sais pas si vous savez, sur laquelle on travaille assez peu d'ailleurs, du naming and shaming, c'est-à-dire de désigner pour isoler et pour faire honte, Corinne Leveleux. Mm-hmm. Et ça, comment dire, ça peut être une réponse. C'est-à-dire, c'est le signe de cette impuissance d'une sorte de société globale qui ne peut rien faire d'autre que de montrer du doigt, on pourrait dire.
Alors, avec parfois des... Enfin, encore une fois, moi, je suis juriste, hein, donc je considère que le droit, c'est une médiation nécessaire pour régler les problèmes, et que le droit est précisément là pour s'assurer, on évoquait tout à l'heure la recherche de la vérité, pour s'assurer que l'accusation est fondée, qu'elle ne repose pas sur un pur fantasme, sur une jalousie, machination.
C'est ça.
Et là, effectivement, avec le naming and shaming, on est sur potentiellement... Alors, parfois, il y a des effets vertueux, encore une fois. Hein, lorsqu'on s'attaque à un puissant, ça peut avoir... Enfin, on l'a vu avec MeToo, par exemple. Hein, MeToo, ça a été aussi un moyen de libérer la parole. Hein, donc, il y a aussi un certain nombre d'hypothèses. Mais où le droit n'est pas forcément accessible, mais pour autant c'est très dangereux.
Est-ce qu'on n'est pas en train de rejouer la pièce et de rejouer finalement ce qui s'est passé, ce que vous décrivez de la naissance de la procédure inquisitoire, c'est-à-dire de la recherche de procédures pour contrôler la vérité et pour assainir cette stigmatisation trop rapide, Corinne Leveleux.
Ça devient nécessaire, en tout cas c'est clair, mais c'est très compliqué parce qu'on a affaire à un phénomène qui est mondial, hein, c'est le propre d'Internet, hein, c'est que précisément, les structures étatiques, hein, et de justice étatique, hein, elles sont impuissantes à réguler un phénomène qui a comme moteur premier le capitalisme, la recherche du profit privé et qui s'attaque à des multinationales pour lesquelles les droits locaux sont autant de variables qui leur permettent de faire un petit peu ce qu'elles veulent.
Hein. Qu'est-ce que nous apprend le Moyen-Âge ? Quelle sagesse on pourrait tirer du travail que vous avez fait, Isabelle D'Artagnan, sur le pilori et cette réflexion sur les peines infamantes, qui restaient quand même très confinées à des micro-sociétés, quoi, des sociétés qui avaient une certaine cohésion, une très grande cohésion, et un marché, finalement, ça avait réussi à la créer, le marché, comme vous l'avez dit, à le réguler un petit peu. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a comme autre arme que cette désignation honteuse ?
Alors moi, je vais répondre un peu à contre-pied. Je trouve que ce qu'apprend cette étude, c'est que il ne faut pas y retourner. C'est-à-dire que je suis spécialiste des sociétés à honneur et des peines infamantes. Mais en tant que citoyenne, j'espère bien...
Elles ne sont pas enviables.
Elles ne sont pas du tout enviables. Et j'espère... moi, je tiens énormément à la dignité humaine, aux droits fondamentaux humains. Et je pense que, de manière générale, les pratiques infamantes sont quelque chose dont on devrait se passer. Et donc, pour l'instant, je n'ai pas de réponse pour notre temps, sinon que réintégrer des peines infamantes serait une mauvaise idée et que les pratiques infamantes actuelle qu'on vient de décrire mériterait des formes de modération.
De modération. Et est-ce que je vous fais un peu la même remarque que celle que j'adressais à Corinne Leveleux? Est-ce qu'on n'est pas dans une phase de finalement une fin de cycle, et dans lequel le droit doit trouver peut-être d'autres formes, trouver ses formes, comme on a inventé la procédure inquisitoire, pour renouveler cette idée de vérité en sortant de la famille, si je vous ai bien lu, Corinne Leveleux? Qu'est-ce que... il vous reste 30 secondes pour répondre à cette question.
Il y a des espèces de tâtonnements qu'on peut constater, c'est-à-dire qu'il y a un impératif de vérité qui est imposé, je crois, par les institutions européennes notamment, ce qui fait que il y a divers outils de fact-checking communautaire, comme les notes de communauté sur Twitter, etc. Bon, pour l'instant, on est dans le pur tâtonnement. Je n'ai pas de réponse à ça, par contre, je crois qu'il faut continuer de tâtonner.
C'est ça.
Il faut que le droit retrouve toute sa place, parce que le droit, c'est quand même une exigence de neutralité.
Oui, et puis le droit, c'est une imagination aussi.
C'est une imagination, c'est une flexibilité, et c'est du commun. Et on a besoin de commun aujourd'hui.
Eh bien, nous terminerons sur ce propos encourageant, sur ce vœu, plus exactement, que vous partagez l'une et l'autre. Le pilori au Moyen-Âge dans l'espace français, 12e, 15e siècle, donc un livre d'Isabelle D'Artagnan, dont je recommande très vivement la lecture. Esprit de justice est terminé ce soir. À la technique, il y avait Ruben Carmazine. À la réalisation, Jean-Christophe Francis. À la préparation, Laurence Genepin. Une émission d'Antoine Garapon.